bienvenue sur Radio Prévert. Nous sommes en compagnie de Kylian qui va vous raconter l'histoire du hip-hop et faire une interview avec un chauffeur routier. Brandon va vous parler de l'équipe de foot de Paris. Il fera aussi une interview sur le thème de la moto. Théo abordera l'histoire de l'équipe de foot de Lyon. Il va aussi recevoir un pompier pour découvrir son métier. Je partagerai avec vous ma passion de la boxe. En fin d'émission, on pourra écouter un micro-trottoir enregistré dans les rues de Chalon sur le sport en général. Tout de suite, je laisse la parole à Théo pour aborder le sujet de l'Olympique Lyonnais.
Merci Maël. Je vais vous présenter le palmarès du club de l'Olympique Lyonnais. Lyon a gagné 7 fois consécutives de 2002 à 2008 le championnat de France, 5 fois la Coupe de France, 1 fois la Coupe de la Ligue, 7 fois le trophée des champions, la meilleure équipe française des années 2000. Les dates clés de l'histoire du club. Le 3 août 1950, le club s'est créé. En 1964, l'OL gagne sa première Coupe de France contre Bordeaux. En 1967, l'OL gagne sa deuxième Coupe de France contre Sochaux. En 1973, l'OL remporte sa troisième Coupe de France contre Nantes. En 1989, remontée de l'OL en Ligue 1 avec le titre de champion de France de Ligue 2. En 2001, l'OL remporte sa première Coupe de la Ligue contre Monaco. Le 4 mai 2002, à Gerland, lors de la dernière journée, l'OL gagne son premier titre de champion de France et gagne le titre des trophées des champions contre Lorient 5-1. En 2003, l'OL gagne son deuxième titre de champion de France et gagne le trophée des champions contre Auxerre. En 2004, l'OL gagne un troisième titre de champion de France et gagne le trophée des champions contre Paris. En 2005, l'OL gagne un quatrième titre de champion de France et gagne le trophée des champions contre Auxerre 4-1. En 2006, l'OL devient le premier club français à gagner 5 titres de champion de France consécutifs. En 2007, l'OL gagne un 6e titre de champion de France et 5e trophée des champions contre Auxerre. En 2008, l'OL gagne son 7e titre de champion de France consécutif et sa 4e Coupe de France contre Paris. Enfin, en 2012, l'OL gagne sa 5e Coupe de France contre Quevilly et le trophée des champions contre Montpellier. Je choisis de faire ma chronique sur l'Olympique Lyonnais car c'est mon club de cœur.
Merci Théo pour cette chronique. Nous enchaînons avec Big Flo et Oli, Dommage.
Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle, elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine.
Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée.
Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage.
Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
C'était Big Flo et Oli, dommage. Vous êtes toujours sur Radio Prévert. On se retrouve pour l'interview de Kylian avec son invité, Monsieur Monchamp, chauffeur routier.
Merci Maël. Bonjour Monsieur Monchamp.
Bonjour.
Vous êtes chauffeur routier. Merci d'être là. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Alors, je fais ce métier depuis 35 ans. J'ai été embauché en 1982 dans une entreprise locale de Charmes-sur-Saône.
D'accord. En quoi consiste votre métier ?
Alors, mon métier consiste à un déchargement, parcourir les routes de France, bien entendu, puisque c'est la grande distance, et puis avoir une représentativité de l'entreprise aussi. On est représentant de l'entreprise. On doit sangler, toute l'activité de chauffeur, faire signer les bons de livraison. C'est des contrats entre l'entreprise expéditeur et l'entreprise destinataire. Donc, c'est des contrats qu'il faut maintenir et on a la sécurité de le faire pour notre employeur.
D'accord. Possédez-vous un camion ?
Alors, moi, je ne possède pas personnellement un camion, mais mon entreprise me met en disponibilité d'un camion. Donc, oui, je suis régulièrement dessus. C'est toujours moi qui est attitré, quoi, si on veut dire.
Dans quelle région allez-vous ?
Alors, dans les régions les plus fréquentes, on fait la région parisienne. Et puis le sud de la France, hein, tout ce qui est Marseille, Toulouse, on va jusque sur Bordeaux, on peut descendre même plus bas, encore Bayonne et autres. On parcourt à peu près tout le géographiquement toute la France.
D'accord. Quelles études avez-vous fait ?
Alors au niveau d'études, moi à l'époque, je sors d'un certificat d'études, un brevet des collèges, et après j'ai passé mon permis de poids lourd. Et avec notre permis poids lourd, on pouvait conduire un camion 26 tonnes ou même 38 tonnes.
Depuis combien de temps roulez-vous avec ce camion ?
Alors, avec celui-ci, je roule depuis une dizaine d'années. Puisque les camions chez nous, ils font entre 7 et 10 ans, je veux dire suivant les kilomètres parcourus, puisqu'il échange environ entre 800 000 et 900 000 kilomètres.
Que transportez-vous ?
Alors on transporte un peu du matériel industriel, des matériaux dangereux, je veux dire tout ce qui est produits piscine, produits pour livrer dans les magasins, les Castorama, les Bricorama, on cite plusieurs marques de grande surface. Voilà ce qu'on fait en livraison.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors pourquoi j'ai choisi ce métier ? Moi j'avais un oncle qui était chauffeur et j'avais envie de voir du pays, avoir une indépendance de travail. Je veux dire, c'est contrairement dans les entreprises, un salarié d'usine ou qui a des heures bien limitées. Nous, on est un peu plus indépendants. Encore quoi qu'il faut respecter les temps de conduite et les temps de repos.
Combien de kilomètres faites-vous par jour ?
Alors, les kilomètres peuvent varier entre 500 et 700 kilomètres suivant, voire jusqu'à 800 si vraiment on est dans une livraison sèche, ce qu'on appelle une livraison sèche, c'est-à-dire d'un départ de Chalon-sur-Saône pour aller directement sur Bordeaux ou voire plus loin.
Changez-vous de camion dans la journée ?
Non, très rarement.
Pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce que quand on est parti, si on change de camion, c'est suite à des pannes. Donc en général, les employeurs, ils se chargent d'avoir des véhicules qui sont en bon état et de façon à ne pas perdre économiquement le marché.
Au bout de combien de temps faites-vous une pause ?
Alors les pauses sont réglementées dans le transport, hein, puisque on doit rouler au maximum 4h30, avoir une pause de 3 quarts d'heure, et on peut la fractionner en une pause d'une demi-heure et après un quart d'heure. Hein. Et puis la journée doit être plus que 9h, voire étendue à 10h.
Comment se passe votre semaine ?
Alors la semaine dans l'entreprise se passe souvent par un départ de bonne heure le matin, le lundi matin, avec une tournée qui dure sur 2 à 3 jours. Hein. Si on va sur une tournée jusqu'à Alors, je prends souvent l'exemple de Bordeaux. Temps d'aller à Bordeaux, on arrive en début d'après-midi, lundi après-midi, on commence de faire des clients, on les fait le mardi, et puis après on recharge du fret que notre exploitant nous a trouvé pour remonter sur la région chalonnaise.
D'accord. Dormez-vous dans votre camion ?
Oui.
Pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce que le métier est tel que ça s'est fait comme ça. On a des camions équipés de couchettes. Alors, en général, celui qui fait la longue distance, on est tous équipés de systèmes de couchage et avec équipement de chauffage et autres.
Comment faites-vous pour gérer le quotidien comme la douche ?
Alors, le quotidien comme la douche, les stations-service sont toutes équipées sur les autoroutes, donc on paye un prix, c'est un service. Et puis dans les restaurants, pareil, c'est des services que l'on paie. On s'arrête le soir, on demande la douche, on paye et puis voilà. Sur la France, on est vraiment bien équipé au niveau sanitaire.
Êtes-vous bon conducteur ?
Bon, je sais pas, je vais pas prétendre à ça. Sur 35 ans de carrière, j'ai eu un accrochage, je crois. Alors, je pense que ça se maintient. Voilà.
Respectez-vous le code de la route ?
Alors, le code de la route, c'est notre baba, puisque moi, je peux dire que c'est, en plus, dans l'entreprise que je travaillais, c'était vraiment des rappels à l'ordre au niveau de l'entreprise. C'était vraiment une chose qui nous inculquait avec un carnet de route, de façon à respecter aussi bien sur les nationales, sur l'autoroute. Alors, le respect du code de la route en général et les temps de pause et les temps de conduite qui est assimilé à notre travail.
D'accord. Merci d'avoir été là pour répondre à mes questions.
De rien.
Merci à Kylian et son invité. Il est temps pour moi de vous présenter ma chronique sur la boxe. La boxe apparaît au XVIIIe siècle. Les combats de boxe étaient organisés par des parieurs. Le premier boxeur reconnu fut l'anglais James Figg en 1719. Les coups d'attaque les plus connus sont le crochet, le direct et l'uppercut. La garde est une position des bras et des jambes qui consiste à la fois à se protéger et à se préparer à une attaque. Il existe aujourd'hui la boxe amateur, la boxe professionnelle, éducative asso, l'handibox et la boxe française. C'est en 1899 que Louis Lerda tente d'implanter la boxe anglaise en France. Le premier combat a eu lieu à la salle Wagram à Paris. Le 15 février 1903, la Fédération française des sociétés de boxe sera créée par des jeunes pratiquants ce sport qui se nommaient Albert Bourdaria, Franz Reichel, Van Rossoz et Paul Rousseau. Sous l'impulsion de Victor Breyer et de Théo Vienne, journalistes sportifs, des matchs ont lieu à la Grande Rue et au Circuit d'Hiver. Les boxeurs tentent d'éviter les coups, mais essayent aussi d'en mettre, que ce soit en boxe olympique ou professionnelle. Des points sont attribués à chaque coup considéré comme net et précis. À la fin d'un combat, le boxeur ayant le plus de points est déclaré vainqueur. La victoire peut également être atteinte si un combattant met son adversaire KO, c'est-à-dire dans l'incapacité de se relever et de reprendre le combat après que l'arbitre ait compté 10 secondes. Un combattant est également déclaré vainqueur si son adversaire est blessé et ne peut pas continuer le combat. Il y a environ 50 000 licenciés de boxe en France. La boxe offre des bienfaits sur le plan physique, par exemple, développement du système cardiovasculaire, entraînement de tous les muscles grâce à des exercices variés, amélioration de la souplesse, tonification des muscles, et aussi sur le plan mental, maîtrise des émotions et développement de la confiance en soi. La boxe est un sport complet. J'espère que je vous ai bien renseigné. Et tout de suite, nous mettons le morceau de Jules intitulé « La tête dans les nuages ».
Je cours après mes rêves, je n'arrive plus à dormir, faudrait arrêter le temps. Routine et problème, on garde les bons souvenirs, le petit est devenu grand. Je cours, j'essaie de rattraper le temps. Je cours, j'essaie de rattraper le temps. Je cours. Pas besoin de courir vite, courir tout court nous suffit. Le soir je rentre, je suis
en fufu. Dans le bloc, j'ai l'impression d'être suivi. Je vois cette maman avec son enfant qui s'en sort pas pour payer le loyer. Elle galère, puis ses 16 ans dans l'amour, elle s'est noyée. Et son mec, il a lâché, elle reste forte, elle voulait deux rôles. Lui, c'est plus, il est perdu, il traîne tout seul, il est dehors. Je vois ce petit qui n'a pas de papa, les réveils sont durs, je le vois à ses yeux. Il rigole, même quand ça va pas, une étoile dans le ciel, c'est un proche aux yeux. Ouh, je vois le petit dehors. Parler les gens, c'est des trucs de grands. Ouh, sans ce mec qui s'en sort pas. Pas de love, pas de peur, ta vie l'a fini par se faire endoctriner. Avant de la drogue à traîner, il t'a sali par amour. C'est qu'il voulait être aimé. Je cours après mes rêves, n'arrive plus à dormir. Faudrait arrêter le temps. Dans l'alcool, les soucis, le quartier, les allers-retours en tôle. Je vois ces gens inhumains, les vrais, je les compte d'une main. Tu vois leur jalousie quand ils te disent à demain. Je vois que c'était mieux avant, faudrait remonter le temps. Je vois ces gens pleins de manières, je me dis que c'était mieux hier. Et je vois cette belle femme qui veut faire payer son charme parce que la vie vaut cher en attendant le pressard. Je vois cette mère qui a pleuré des larmes parce qu'elle a vu que son fils sous son lit a caché des armes. Faut qu'elle trouve un moyen pour éviter le drame. Et au jugement, c'est souvent elle que l'on blâme. Je vois ce poteau qui veut faire sa connerie. Je le raisonne, je le raisonne. Je lui dis ne prends pas de risque, prends pas de risque, prends pas de risque. Je cours après mes rêves, n'arrive plus à dormir. Faudrait arrêter le temps.
On continue en musique avec Alphaville. Bonjour à celles et... En direct sur Radio Prévert. C'était Indochine, l'aventurier. On retrouve Théo qui reçoit l'adjudant Béliard, pompier, pour parler de son métier.
Merci Maël. Bonjour Monsieur Béliard.
Bonjour.
Vous êtes pompier.
Est-ce que votre métier ou est-ce que c'est votre métier ou vous êtes bénévole?
Donc c'est mon métier depuis 17 ans maintenant.
En quoi consiste votre métier?
Alors, le métier de sapeur-pompier, c'est un métier qui est très diversifié. La partie principale de notre activité concerne tout ce qui est intervention. À savoir, sur Chalon-sur-Saône, on effectue environ 6600 interventions par an. Et la seconde partie, donc, c'est tout ce qui est l'activité fonctionnelle, donc qui se réalise au centre de secours, avec les entraînements, la formation, l'activité physique, l'entretien des matériels, etc. Voilà.
Est-ce que vous faites des interventions quand il y a le feu uniquement?
Alors non, le feu représente environ 10% de nos interventions, de notre activité. Donc, nous effectuons principalement du secours à personne aujourd'hui, qui représente à peu près 70%. Et aussi, bien entendu, tout ce qui est accident de la route, les opérations diverses quand il y a des inondations ou les tempêtes, etc. Et on a également des équipes de spécialistes qui interviennent pour tout ce qui est milieu aquatique ou tout ce qui est risque chimique également.
Et depuis combien de temps faites-vous ce travail?
Alors, le travail, comme je vous le disais, donc ça fait 17 ans. J'ai commencé comme jeune sapeur-pompier pendant 4 ans. Ensuite, j'ai eu un contrat pour être sapeur-pompier volontaire pendant 2 années. Et ensuite, après avoir obtenu le concours de sapeur-pompier professionnel, je suis parti donc sur Autun et revenu sur Chalon. Donc ça fait maintenant 17 ans de carrière.
Pourquoi faites-vous ce métier?
Ce métier, tout d'abord, comme beaucoup de mes collègues, c'est une vocation, hein, c'est quelque chose qu'on ne fait pas par hasard. De mon côté, j'aime beaucoup le relationnel avec les gens et le fait de rendre service à la population. C'est un métier où il n'y a pas de routine, chaque opération est différente, ce qui en fait un métier vraiment attrayant avec de l'adrénaline et un métier très dynamique.
Quelles études avez-vous fait pour devenir pompier?
Alors, pour devenir pompier, pas forcément, mais j'ai effectué un bac électrotechnique, puis après je suis parti en IUT industriel et maintenance. Ça m'a permis de préparer mon concours. C'est pour ça que j'ai continué mes études, pour préparer mon concours au mieux. Voilà.
Quelles sont vos qualités en tant que pompier?
Les qualités, alors c'est toujours difficile de donner ces qualités. Je vais quand même en donner quelques-unes. Le professionnalisme, ça c'est quelque chose qui est important. Et d'être rigoureux et sportif.
Quel est votre meilleur souvenir?
Alors, meilleur souvenir, il y en a pas mal, parce qu'on vit quand même beaucoup de moments intenses en tant que sapeur-pompier. Que ça soit des bons ou mauvais moments, mais dans les meilleurs souvenirs, je peux vous parler d'un en particulier, c'est un accouchement à domicile. Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle, et puis c'est un de mes meilleurs souvenirs, mais il y en a d'autres.
Quel est votre pire souvenir?
Pire souvenir, alors je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je donnerai pas d'exemple précisément sur des souvenirs, on va dire des mauvais souvenirs. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de voir la détresse des gens. Et ça, derrière, bon, bah, nous, après, on a le devoir de les aider et d'apporter notre soutien.
Est-ce que vous allez rester pompier jusqu'à votre retraite?
Alors, ça, bonne question. Je sais pas encore, mais en tout cas, je le souhaite et j'ai la volonté d'y rester. Ouais.
Y a-t-il des évolutions dans la profession?
Oui, oui, oui. Y a beaucoup d'évolutions dans la profession, comme dans la société actuelle. Le monde évolue et bah, notre profession évolue également. Donc c'est un ensemble de choses, mais en effet, la profession a évolué depuis ces dernières années.
Est-ce que vous aimez votre métier?
Oui, oui, bien sûr. Bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées un petit peu avant, pour moi c'est un métier qui est passionnant et je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui que d'être sapeur-pompier.
Est-ce que vous avez sauvé des vies?
Sauver des vies, ouais, c'est un grand mot. C'est sauver une vie en fait, et c'est un acte qui est quand même peu fréquent, mais qui arrive. Après, moi, je peux vous donner des exemples, par exemple sur des réanimations en collaboration avec les équipes médicales, ou lorsque des personnes font des arrêts cardiaques, on a réussi à ramener des personnes avec un rythme cardiaque, ont pu récupérer et retrouver la conscience et avec aucun séquelle. Donc ouais, on peut considérer sauver une vie à différents niveaux, mais on peut en tenir compte.
Vous avez le grade d'adjudant. Qu'est-ce que cela signifie?
Alors, grade d'adjudant, si vous voulez, aujourd'hui on a une hiérarchie. Donc on a les hommes du rang, les sous-officiers, les officiers. Donc là, en tant que sous-officier, l'adjudant aujourd'hui, il a un rôle de cadre dans l'organisation et au niveau opérationnel. Donc c'est la gestion humaine au quotidien, dans l'organisation des tâches, dans l'organisation de la journée de travail. Et puis aussi sur le terrain, bah, c'est au niveau opérationnel, c'est la responsabilité de chef d'agré tout en un. Donc il peut prendre à son compte un véhicule ou plusieurs véhicules en responsabilité. Voilà.
Merci Monsieur Béliard, au revoir.
Bah écoutez, au plaisir, bonne continuation à vous.
À toi Maël.
Merci Théo et Monsieur Béliard. Après avoir parlé de ceux qui jouent avec le feu, on va parler de ceux qui font chauffer le ballon. On va donc écouter Brandon avec sa chronique sur le PSG.
Merci Maël, je vais vous présenter la chronique du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain Football Club, couramment appelé Paris Saint-Germain ou PSG, est un club de football français. Il est basé à Saint-Germain-en-Laye. Et la section professionnelle est à Paris. Le Paris Football Club a été fondé en 1904, présent en première division du championnat de France depuis 1974. Paris Saint-Germain est le club y évoluant depuis le plus longtemps sans discontinuité. En 2015, le club parisien réalise le premier quadruplé en remportant le championnat de Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Cette performance est rééditée l'année suivante, en 2016. Le club compte à son palmarès 6 titres de champion de France, en 1986, en 1994 et de 2013 à 2016. 11 Coupes de France et 7 Coupes de la Ligue. Le club remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs en 1996. Le Paris Saint-Germain joue les matchs à domicile au Parc des Princes depuis juillet 1974 et s'entraîne au centre d'entraînement Ourédou, ex-camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye. Dirigé dans ses premières années par des personnalités comme le créateur de mode Daniel Lechter, puis Borelli, éditeur et publicitaire, le club est racheté en 1991 par le diffuseur du championnat à la télévision Canal+. Il mène le club parisien à un grand succès pendant ses premières années. Le PSG est ensuite vendu à l'américain Colony Capital en 2006. À cette époque, le PSG ne remporte pas de titres majeurs hormis deux coupes nationales. 5 ans plus tard, le club est vendu au fonds souverain qatarien Qatari Investissement Authority. Les moyens financiers très importants qui sont injectés dans les caisses du club depuis 2011 lui ont permis de remporter 16 titres sur la scène nationale. Grâce à eux, le PSG a pu acheter des gros joueurs comme Mbappé, Neymar, Daniel Alves. L'ex-tennisman et homme d'affaires qatarien Nasser El Khelaifi préside le conseil de surveillance depuis 2011. L'espagnol Unai Emery en est l'entraîneur depuis 2016. Mon joueur préféré du PSG est Mbappé. Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998 à Paris. Il fait 1m78 pour 67 kg. Il porte les couleurs du PSG depuis l'année 2017-2018. Il est attaquant et porte le numéro 29. Il a joué 11 matchs en championnat avec Paris, soit 900 minutes. Il a marqué 5 buts et a fait 3 passes décisives. Il a pris 2 cartons jaunes. Il a joué à l'AS Monaco en 2015-2016. Paris a acheté Mbappé pour 145 millions d'euros. J'aime bien Mbappé pour sa technique de jeu.
Merci Brandon. Tout de suite, nous nous retrouvons avec Niska et le titre, c'est Snapchat.
Elle m'a pas donné son Snapchat. Ce soir, il faudra que je l'épate. Je l'ai accosté quand j'étais rapate. Je crois qu'elle a senti la patate. Dans la soirée, quand je l'ai regardé, excuse-moi ma chérie, dis-moi comment t'appelles. T'as un joli prénom enchanté. J'aimerais savoir dans la vie qu'est-ce que tu fais. Ça dépend des jours pour me faire des sous. Je fais la nounou quand parfois je sors des coups. Ouais j'avoue c'est un peu relou. Ça me prend le chou et les gosses ils jouent les fous. Je lui demande qui est son petit copain. Elle me répond qu'elle n'y pense même pas. Elle me sourit et trouve que je suis trop coquin. Là sur le coup je viens de marquer. Et là j'ai pris la confiance, j'ai sorti mon phone. Je l'ai pointé vers elle, s'il te plaît peux-tu me mettre ton Snapchat. Elle m'a regardé puis m'a méprisé. Tu m'as pris pour qui? Non mais oh je ne suis pas comme ça. Elle veut pas donner son Snapchat. 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 Son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle m'a refusé son Snapchat. Là franchement ça m'a mis une claque. Elle a cramé tout mon micmac. Elle m'a trouvé trop charmant. D'après toi tu m'as recalé. Tu m'as pris pour un bouffon sur ma tête. Elle me dit qu'en ce moment elle n'est pas calée. Et qu'elle ne veut pas trop se prendre la tête. Elle m'a chippé. Je l'ai fixé. Franchement tu fais pitié. Je suis pas comme les autres, t'es matrixé. Non attends c'est bon. D'un coup elle me reconnaît. C'est pas toi qui fais du son. Je t'ai déjà vu dans gros bonnet. M'as-tu dit charreau sapé comme jamais? Oui bien sûr c'est moi, tu me reconnais. J'ai cramé ton flow, je vois de quel genre t'es. Je sais qu'on va s'entendre, j'ai de la monnaie. Elle veut pas donner son Snapchat. 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 Son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat.
C'était Niska avec Snapchat sur Radio Prévert. Tout de suite, nous écoutons Brandon faire son interview sur le métier de mécanicien avec Monsieur Eliane.
Bonjour Monsieur Eliane.
Oui, bonjour.
Vous êtes mécanicien moto ?
Oui, tout à fait.
Alors, 41 motos, à 10 ans. Quelle est votre moto préférée ?
Kawasaki.
D'accord.
La marque ou la moto ?
La moto en elle-même.
Un ZX-6R.
Et pourquoi ?
C'est une sportive.
D'accord. Et quelle est la moto de vos rêves ?
Le ZZX-1400.
D'accord. Avez-vous une moto ?
Oui.
Quel genre de moto ?
En kawa.
D'accord. Est-ce que vous faites souvent de la moto ?
Plus trop, non. J'ai des enfants, donc ça devient un peu dur.
D'accord. Est-ce que vous faites des courses ?
Des courses moto, non, jamais.
D'accord. Depuis quand êtes-vous passionné de moto ?
Oh, ça fait... j'ai 42 ans. Ça fait... 40 ans.
Et comment cette passion est-elle venue ?
Pardon ?
Comment cette passion est-elle venue ?
Parce que j'aime la mécanique et le deux roues. C'est venu comme ça.
D'accord. Et en quoi consiste votre métier ?
Réparer les motos. Réparer, essayer, guider les clients.
Et depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
25 ans.
Est-ce qu'il vous plaît ?
Bien sûr. Ah ben, c'est un métier passion.
Pourquoi ?
Il faut aimer la moto pour bosser dedans. Si vous aimez pas un petit peu la moto, c'est pas la peine de travailler dans une concession.
Avez-vous fait des études spécialisées dans les motos ?
Oui, CAP, CQP.
Quelle moto est la plus dure à réparer ?
Oh, il n'y en a aucune. Elles sont toutes pareilles.
Et quelle est la moto la plus facile à réparer ?
La plus facile à réparer, c'est les roadsters, parce qu'il n'y a pas de carénage, donc c'est plus rapide.
D'accord. Quelles sont les pannes les plus fréquentes sur une moto ?
Pannes les plus fréquentes, on va dire les bougies.
Et quelles sont les pannes les plus difficiles à réparer ?
Tout ce qui est panne électrique, faisceau électrique ou coupure électrique.
Avez-vous déjà eu des pannes dont vous n'avez pas la solution ?
Non, on est toujours aidé avec le fabricant après derrière.
D'accord. Dans votre magasin, qui achète les motos ?
Est-ce qu'il y a ? Je vous ai pas entendu.
Dans votre magasin, qui achète les motos ?
Qui achète les motos ?
Oui.
N'importe quel client, tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Il y a de la route, de l'enduro, du cross.
Qui les répare et qui vend les pièces ?
Moi, je les répare et j'ai mes collègues qui avec un collègue et j'ai d'autres collègues qui vendent les pièces.
D'accord. Aimeriez-vous avoir votre propre garage pour moto ?
Pas du tout.
D'accord. Merci, monsieur Elian, d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
Au revoir.
Bon après-midi, au revoir.
Merci, monsieur Elian et Brandon. Nous continuons cette émission avec Kylian, qui va aborder le sujet du hip-hop.
Merci, Maël. Bonjour, je vais vous présenter l'histoire du hip-hop. Le 11 août 1973, un DJ appelé Kool Herc a organisé une fête mémorable dans le quartier du Bronx à New York, aux États-Unis. Ce jour-là, Kool Herc, autrement nommé Kool DJ Herc ou encore Father of Hip-Hop, a changé l'histoire de la musique. Grâce à deux platines de mixage, il a prolongé les parties rythmiques, instrumentales pour faire danser les gens plus longtemps. C'est ainsi que naît le break. Kool Herc, de son vrai nom, Clive Campbell, est né le 16 avril 1955 à Kingston, capitale de la Jamaïque. Il a émigré avec sa famille dans le quartier du Bronx à New York à fin 1967. Suite à cette première fête organisée, le DJ en a fait d'autres dans le quartier hip-hop que l'on nomme les block parties. Il y a 44 ans, naissait donc le break qui signifie pause en français. La danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance, principalement effectuées dans la musique hip-hop. Elle dénombre plusieurs styles de danse tels que le breaking, le locking et les popping. La culture hip-hop a d'abord été connue mondialement par sa musique. Elle est actuellement la culture urbaine dominante par le monde. Dans chacune des disciplines associées, on prône le dépassement de soi et la réalisation de soi, ce qui est un message très positif pour la jeunesse. Le graffiti fait partie de la culture hip-hop. En milieu urbain, le graffiti permet aux graffeurs issus de la culture hip-hop de s'associer à un collectif ou des mouvements en mouvement, de s'imprégner de son environnement et de laisser sa marque. Technique et élaborée, le graffiti nécessite adresse et créativité. Il implique le contrôle d'une multitude de méthodes artistiques, comme le pochoir, la gravure, la peinture à la bombe, le rouleau ou le pinceau. Il nécessite la maîtrise de certains concepts tels que l'équilibre, la géométrie, le style. Les graffitis dans la culture hip-hop sont très souvent porteurs de messages. Son appartenance à un groupe, sa révolte, son indignation, etc. sont parmi les messages que l'on illustre. Il ne faut cependant pas confondre graffiti et tag, tous deux faisant partie de la culture hip-hop. Le graffiti est une forme d'art complexe, élaborée, illustrant personnage et lettrage, alors que le tag est une signature habituellement associée à un artiste graffeur particulier ou à un groupe auquel ils adhèrent. La culture hip-hop est arrivée en France en 1982, environ 10 ans après son apparition aux États-Unis avec la tournée New York City Rap en Europe. Le graffiti a commencé à se répandre à travers l'Hexagone à partir de l'année 1983 et particulièrement à partir de l'été 1984, où les premières pièces sont apparues sur le quai de Seine, réalisées par les premiers taggers français, Bando, Mode 2, les CTK et les BBC. Le hip-hop est aussi le breakdance, dance hip-hop à un ou à plusieurs, tout dépend des groupes. Les battles, c'est un affrontement, on danse entre deux personnes ou deux groupes. Chaque danseur évolue tour à tour en musique, sans contact physique avec l'adversaire.
Merci Kylian de nous avoir fait découvrir l'histoire du hip-hop. Tout de suite, c'est Nino avec Dis-moi que tu m'aimes.
J'avoue, j'ai fait le con enfermé entre quatre murs. 3 heures du mat, je repense à toi. Et si un jour ça tire, est-ce que tu seras mon armure? Est-ce que t'agiras comme une salta? Y'a toi, y'a moi, y'a nous, on ne le fait plus qu'un. Le plus important, c'est l'atterrissage. C'est pas la chute, hein. Et si je saute, tu seras mon parachute. On ira au Niagara voir les chutes d'eau. Les nuages à travers les hublots. Pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? C'est ce qu'il faut là où il faut. Après toi y'a pas mieux. Dis-moi que tu m'aimes. Et regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. J'suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. J'suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Relation discrète, relation parfaite. Vivons cachés, on aura moins de problèmes. Te prends pas la tête, j'ai mené l'enquête. Elle est so clean, so fresh, so halal. Et j'ai plus frôlé la mort que l'amour. Et de moi, je sais que des fois t'en as marre. Mais on se comprend, on a le même humour. On se comprend, on a le même humour. Tu plais à ma mère, la tienne m'apprécie. Je te regarde, je souris comme un imbécile. Pour te taquiner, je te dis que t'es moche. Mais la vérité, c'est que t'es un missile. Ce qu'il faut là où il faut. Après toi, y'a pas mieux. Dis-moi que tu m'aimes. Et regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. J'suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes. J'suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes,
dis-moi que tu m'aimes.
Ouais ouais, dis-moi que tu m'aimes,
ouais, ouais, dis-moi que tu m'aimes.
À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel.
Au bout du tunnel.
C'était Nino avec le son « Dis-moi que tu m'aimes ». On est toujours en direct sur Radio Prévert. Maintenant, écoutons ensemble le micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Chalon.
Est-ce que après, vous pratiquez un sport? Lequel?
L'équitation.
Non, du tout.
Après
non.
Avoir parlé oui. De boxe, de foot, oui, de hip-hop et de moto, dit que ce serait intéressant de demander aux Chalonnais ce qu'ils pensent du sport.
Est-ce que vous pratiquez un sport? Lequel?
L'équitation.
Non, du tout.
Non.
Oui, le football.
Oui, je pratique un sport. Je pratique l'aquagym.
Pour l'instant, non, mais j'en ai déjà fait, oui.
du basket.
Pourquoi vous en faites ?
Pour le bien-être.
Parce que c'est un sport collectif.
Ben parce que ça permet d'entretenir un peu mon corps et mon esprit, de me détendre.
Parce que j'aimais bien faire un sport qui était en équipe. Puis voilà, j'aimais bien tout ce qui était jouer avec un ballon, mais avec les mains.
Pourquoi vous ne faites pas de sport ?
J'ai pas le temps.
On n'a pas le temps.
Combien de temps consacrez-vous au sport chaque semaine ?
2 heures.
2-3 heures par semaine.
J'essaye d'aller régulièrement à mes séances, donc c'est 1 heure par semaine.
Je faisais 2 entraînements par semaine, d'environ 2 heures.
Depuis combien de temps faites-vous ce sport ?
20 ans.
15 ans.
Depuis 3 ans.
12 ans.
Quel sport regardez-vous à la télé ?
Tous les sports.
L'équitation.
Tous les sports.
Je regarde jamais de sport à la télé.
Bah du basket, puis du foot et du catch aussi.
Merci aux personnes qui nous ont répondu gentiment. Voilà, l'émission est finie. Je remercie Kylian, Brandon et Théo pour leurs chroniques et leurs interviews. Merci également à nos invités, Monsieur Belliard, Monsieur Eliane et Monsieur Mochamp. Nous remercions Madame Hubert, Madame Barbe, Madame Desbrosses, Annabelle, Marie et Basma pour leur aide. Manon et Stéphane pour l'enregistrement de l'émission. Enfin, nous remercions les auditeurs de nous avoir écoutés sur Radio Prévert. Au revoir et passez joyeuses fêtes.